Vous écoutez On lit pour vous.
L'histoire de Juliette Trolliot et sa boutique Rixrax, un texte de Jean Bourbeau, paru le 26 janvier 2024 dans Urbania. La ponquette devenue reine du bouton. Tout a commencé par une cigarette à Bali. Nous sommes en 1980. Juliette Trolliot, début vingtaine, bourlingue le monde depuis près de 5 ans. C'est les pieds dans le sable qu'elle demande une clope à un bel inconnu. Il n'en faut pas plus pour que les deux tombent amoureux. Elle est montréalaise, lui, berlinois. Juliette décide de suivre son cœur et emménage avec lui dans la capitale allemande. Ça a été une époque merveilleuse. La ville connaissait une période de grande effervescence, autant artistique que politique. J'habitais Kreuzberg. Le mur était juste devant ma porte. Il y avait des occupations d'immeubles, des manifestations. Le coût de la vie n'était pas cher. J'étais tisserande pour le compte d'un antiquaire. Je faisais des chaises en rotin. J'adorais ça. Mais mon visa tirait à sa fin après 5 ans, et j'avais de plus en plus le goût d'ouvrir ma propre boutique. 4e tiroir, à partir d'en bas, lance-t-elle à une cliente égarée devant une mer de boutons. Revenir dans le plateau Mont-Royal après 10 années passées loin des rues qui l'ont vu naître ne se fait pas sans regret. Grande fidèle des friperies berlinoises, Juliette retrouve toutefois ce même univers à Montréal et songe à s'y lancer en affaires. Les friperies étaient beaucoup plus populaires à l'époque. Le vieux stock était encore fréquent. Il n'était pas rare de tomber sur des vêtements des années 20-30. Elle met la main sur le fonds de commerce d'une boutique d'artisanat, coin Saint-Hubert et Guildford. Dans le temps, ici, il ne manquait pas d'action, s'exclame-t-elle en pointant l'angle résidentiel toujours peuplé de quelques commerces. Le plateau a beaucoup changé depuis. C'est en rénovant le local que germe l'idée d'ouvrir une mercerie plutôt qu'une friperie, se spécialiser dans la fourniture de couture. De curieuse fascination, le bouton devient vite son objet de prédilection. Il est décoratif, utile et essentiel. Le bouton doit s'harmoniser à l'habit. Quand on dépose le bon bouton au bon endroit, on découvre réellement toute sa splendeur, souligne-t-elle en avouant avoir toujours nourri une passion pour la mode. Rixrax ouvre ses portes en 1987. Les clochettes de l'entrée déclenchent leur mélodie à chaque nouveau client. Un itinérant nous interrompt pour demander un café, tandis qu'une amie quitte. Tu m'appelles pour aller prendre un verre et t'envoyer entre les plumes. Occupée par une commande, Juliette me fait signe de patienter, tout en m'appelant par un mauvais prénom. Un lot de boutons tombe au sol. De la caisse vintage retentit un cliquetis. Dans cette décoration bohème règne un délicieux parfum de bazar. À travers les continents de textures bigarrées, notre regard navigue, émerveillé par l'abondance qui s'offre à lui. Une accumulation que l'on devine fruit de plusieurs décennies. Lorsque j'ose lui demander la quantité de boutons qu'elle tient en vente, elle me répond qu'un chiffre exact est impossible à calculer. Jamais, au grand jamais, je n'aurais cru en avoir autant. C'est de la folie, mais une folie contrôlée. Aussitôt que l'on me demande quelque chose, je sais si je l'ai et où il est. Après tout, c'est moi la queen du bouton. Aujourd'hui, après 36 ans de métier, sa réputation dans la métropole n'est plus à faire. J'ai toujours connu mon rôle. Je fournis ceux et celles qui font de la création, que ce soit les artistes de la haute couture, les stylistes, les costumiers. Et bien sûr, monsieur et madame tout le monde, personne n'est à l'abri d'un bouton qui tombe. Quelques clientes explorent avec nonchalance les rivages infinis de boutons, effleurant leur surface du bout des doigts. Depuis l'autre bout du magasin, Juliette mentionne ses passages à la télévision, nomme les vedettes, qui sont des réguliers, et dévoile au passage quelques souvenirs des belles années du quartier. Arborant une robe Chanel, de chic lunettes et cette perle à son oreille gauche, vestige des anneaux qui s'y trouvaient durant ses années berlinoises, elle affiche une élégance intemporelle, conjointe d'un caractère aussi exubérant que charmant. Elle m'assure que nous allons toujours avoir besoin de boutons. On va quand même pas commencer à juste s'habiller en stretch, rigole-t-elle en me lançant un clin d'œil. À 66 ans, sa santé est aussi bonne que celle de son célèbre commerce coiffé d'un bouton format géant. J'espère que Rixrax va me survivre, s'exclame-t-elle avec panache. Jean-Paul Gaultier n'a pas encore fait son tour, alors je garde espoir. On ne sait jamais. C'était l'histoire de Juliette Trolliot et sa boutique Rixrax, un texte de Jean Bourbeau, paru le 26 janvier 2024 dans Urbania.
La propagande russe se fait sentir au Canada. Un texte de Sandrine Vieira, paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir. Les tentatives d'ingérence russe au Canada ne se limitent pas aux élections et ont déjà des répercussions bien réelles sur les citoyens, ont signalé jeudi des experts lors de la conférence d'Ottawa sur la sécurité et la défense. Les influences alliées du Kremlin à l'extrême droite, comme Tucker Carlson, et d'autres à l'extrême gauche ici au Canada, utilisent leur plateforme pour amplifier des récits pro-russes sur la guerre en Ukraine, a expliqué Marcus Kolga, directeur de DisinfoWatch, un organisme surveillant la désinformation étrangère. Le spécialiste des opérations d'information russes et étrangères avance que ces récits ont déjà des répercussions directes telles que l'érosion du soutien occidental envers l'Ukraine et la perte de confiance du public en l'OTAN et en l'armée canadienne. En entrevue avec l'ex-animateur vedette de Fox News, Tucker Carlson, le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine affirmait qu'il avait envahi l'Ukraine pour combattre les néo-nazis et que c'était l'Ukraine qui avait déclenché la guerre. Le premier ministre Justin Trudeau avait ensuite déclaré que le président Poutine était prêt à utiliser toute la propagande possible pour tenter de justifier son invasion de l'Ukraine, mais s'était dit convaincu que les Canadiens n'étaient pas dupes. Ces opérations ont un impact direct sur les Canadiens. Elles sont conçues pour manipuler l'opinion publique, nous diviser et éroder la confiance au sein de notre société, a fait valoir Marcus Kolga lors d'un panel sur les menaces pesant sur la démocratie canadienne. M. Kolga a ainsi souligné que des théories selon lesquelles la Russie n'a jamais attaqué l'Ukraine ou encore que l'OTAN est responsable de l'invasion russe trouvent de plus en plus d'écho, notamment au sein d'une part de l'électorat américain. Le soutien quasi unanime des électeurs républicains à l'Ukraine en mars 2022 a diminué de près de 50%. Et il n'est pas surprenant que les congressistes républicains bloquent l'aide américaine à l'Ukraine, note-t-il. Un récent sondage Angus Reid indique qu'un quart des Canadiens estiment que le pays offre trop de soutien à l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie, contre 13% qui disaient la même chose en mai 2022. Les communautés ukrainiennes ciblées. Le directeur général du Congrès ukrainien-canadien, Ihor Mychalchisyn, a quant à lui déploré l'ingérence de Moscou dans la communauté ukrainienne-canadienne. Nous avons des citoyens partout, de Vancouver à Edmonton, en passant par Toronto et Ottawa, qui ont été physiquement menacés et dont les entreprises et les maisons ont été endommagées, a-t-il raconté jeudi. Des actes d'intimidation passent souvent par les diplomates russes, observe-t-il. Ils sont devenus en quelque sorte des apologistes de discours haineux émanant de l'ambassadeur russe et de son équipe. nous pensons que les expulsés seraient une bonne première étape. Une enquête publique sur l'ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux est en cours à Ottawa. La commission Hogg examine les activités d'ingérence auxquelles la Chine, la Russie et d'autres acteurs étrangers ont pu se livrer et, le cas échéant, sur l'incidence qu'elles ont pu avoir sur les élections fédérales de 2019 et de 2021. C'était « La propagande russe se fait sentir au Canada », un texte de Sandrine Vieira, paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir.
Desjardins et nous. Un texte de Marie-France Bazeau, paru le 6 février 2024 dans La Presse. Nous apprenions au début février 2024 que le mouvement Desjardins allait, dans les prochains mois, sabrer 30 % de ses guichets et points de service, aussi bien dans des quartiers urbains que dans des villages partout au Québec. La nouvelle a semé la consternation. Il fallait voir la pimpante représentante de Desjardins expliquer la chose dans les médias, claironnant des lignes apprises par cœur, minimisant les conséquences de la décision. Ça ne touche que 1 à 3 % de la population, surtout des aînés, qui pourront se tourner vers les services en ligne. Oui, mais de quel pourcentage de vieux et de moins vieux peu doués pour le numérique? Parlons-nous. Est-ce 10, 30 ou 50% de cette population de plus en plus invisibilisée, abandonnée, ignorée au Québec? Les formules toutes faites de la dame des relations publiques déboulaient, déconnectées. Desjardins venait ajouter au mépris croissant envers les citoyens les moins rentables de notre société. OK. Le mouvement Desjardins n'est pas seul à réduire son offre de services. La Banque Laurentienne a cessé le service au comptoir en 2019. Récemment, la Scotia a réduit ses services. La Banque nationale a suivi le bal, surtout en région, la Naudière, Lac-Saint-Jean, tandis que la Royale l'a fait partout au pays, notamment dans les centres urbains. Les succursales, de plus en plus dispersées, servent dorénavant à négocier prêts et hypothèques. Les raisons invoquées sont toujours les mêmes. L'évolution des habitudes transactionnelles des clients. On va moins au comptoir et au guichet automatique, et l'argent comptant est voué à disparaître. À peine 5 % des consommateurs n'utilisaient plus le cash lors de transactions il y a 15 ans, contre 25 % aujourd'hui. Je sais que l'usage des billets et des guichets est en sursis, mais les explications joviales de la porte-parole de Desjardins ressemblent à une prophétie qui s'auto-alimente. Je suis cliente de Desjardins full patch. Depuis le primaire, où l'on nous initiait à l'épargne en ouvrant un compte, jusqu'à l'épisode du vol massif de données de 2016, et même maintenant, mais pas que. J'ai appris l'histoire d'Alphonse et de Dorimène Desjardins, les deux cofondateurs des caisses populaires fin 1900 à Lévis, fantastique illustration de l'esprit d'entreprise des Québécois. Je crois profondément que Desjardins est plus qu'une institution financière. Elle est inscrite dans l'ADN du Québec. Traditionnellement, nos villages étaient construits autour de trois pôles essentiels. L'église, le bureau de poste et la caisse pop. Le dernier membre de la trilogie fout à son tour le camp. Desjardins a grandi avec le Québec. La caisse est souvent l'édifice le plus laid du village ou du quartier. Le style moderne des années 1970 est indissociable des caisses. Mauvais goût et matériaux cheap. Leur déploiement a accompagné le développement des banlieues et celui des abords de villages défigurés où les vieilles maisons de bois étaient recouvertes de clins d'aluminium en oblique, où la tôle bleue et le plastique beige donnaient le ton. On ne dira jamais assez. Les caisses ont contribué à l'enlaidissement systématique du Québec des années 1960-1970 au nom du progrès. Les caisses populaires ont néanmoins, pendant 123 ans, occupé le territoire, l'ont marqué, ont occupé les rues principales, ont développé des communautés, soutenu des combats locaux, des enjeux régionaux. C'est une fierté québécoise très enracinée, concrète. Le mouvement est né à Lévis, hors d'un grand centre. Son histoire a été épique, rassembleuse et progressiste dès sa formation. Il a survécu aux guerres, à la grande noirceur, a accompagné la Révolution tranquille. Les caisses racontent notre histoire. Ce n'est pas rien, le territoire. Il est à la fois réel et rêvé. Il faut l'occuper, se l'approprier. À travers lui viennent appartenance, fierté, économie, culture, tissu social. Ça se fait à travers les institutions qui le jalonnent, les écoles, les paysages familiers, le patrimoine bâti. C'est vrai partout, pas qu'au Québec. Quand on cesse de rêver, de s'approprier son territoire, il devient un espace sans lien, à remplir, à vendre. On peut y installer des mines hyper polluantes, des ports méthaniers dans des pouponnières de poissons menacés, démolir ses maisons ancestrales, vendre ses terres humides à des promoteurs étrangers. On devient locataire d'un terrain marchandisable à l'infini, jusqu'à la dissolution. Nous sommes très lousses sur la question de notre territoire ici. Découvrir la Gaspésie ou les îles pendant la pandémie ne nous a pas rendus plus responsables. Revenons à Desjardins. Les comptoirs de services, les guichets automatiques qui ferment, ce sont des gens, des quartiers, des régions un peu plus abandonnées, abandonnables. Bien sûr qu'ils n'étaient plus rentables comme jadis, mais qu'est-ce exactement que la rentabilité lorsqu'on est une des institutions fondatrices du Québec d'aujourd'hui? Les sommes délirantes versées aux dirigeants? L'esprit sec et cartésien? Les colonnes de chiffres implacables? Ou un territoire que chacun continue à occuper pour le bien de tous? Bien sûr, on ne reviendra pas en arrière, mais force est de constater que quelque chose s'est délité. À force de brandir la rentabilité libéraliste, on se magasine un Québec sans saveur, sans mémoire, aux racines flottantes. On ferme une caisse, puis on démolit une vieille maison bicentenaire. Pas grave. Ce qui se passe actuellement avec le mouvement Desjardins dépasse le simple guichet abandonné. Desjardins, jadis acteur de changement et vecteur d'identité, est désormais asséché. C'était Desjardins et nous. Un texte de Marie-France Bazeau, paru le 6 février 2024 dans La Presse.
De vieilles églises pour contrer la crise du logement. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 16 janvier 2024 dans Le Devoir. D'un point de vue patrimonial, la situation des églises du Québec est catastrophique. C'est ce qu'affirme le groupe Portes ouvertes, formé de citoyens préoccupés par la dégradation rapide des églises, dans une lettre publique publiée aujourd'hui dans Le Devoir. Dans un contexte où l'entretien de ces vieux bâtiments devient de plus en plus difficile, l'heure est grave, plaide-t-il. C'est une très bonne initiative que cette lettre, commente Luc Nopen, historien de l'architecture et spécialiste des églises au Québec. Mais elle ne va pas assez loin, parce que ça va plus mal que ça encore, et de beaucoup. Selon lui, il existe au moins 2000 églises au Québec menacées du pire dans un avenir très rapproché. On ne sait pas quoi en faire. Pourtant, dit-il, elles pourraient être utiles avec leur terrain à l'heure d'une terrible pénurie de logements. La lettre du groupe Porte Ouverte est appuyée par différents acteurs issus de municipalités, de coopératives, de groupes communautaires, dont Amélie Girard, directrice générale d'économie sociale Laurentides, l'essayiste et professeur Marie-Hélène Voyer, l'aménagiste Élie Desrochers, l'urbaniste Alexis Baillargeon-Fournel et la designer urbaine Ève Renaud-Roy. De très nombreuses églises, particulièrement fragilisées par leur architecture hors normes, sont en piteux état et leur détérioration continue de s'accélérer au point de devenir, dans de nombreux cas, irréversible, soulignent les signataires. Près de 280 de ces bâtiments payés par la société ont été démolis depuis 2003, selon des données recueillies par Le Devoir. Des bâtiments vont se retrouver à l'abandon ou tout simplement mis en vente, sans planification. Selon Luc Nopen, le Conseil du patrimoine religieux du Québec, CPRQ, l'organisme qui veille en principe à la préservation de cette richesse collective ne jouit pas des ressources nécessaires pour assurer la reconversion urgente des églises au profit de la collectivité. Le Conseil dispose de fonds de 35 millions par année pour des centaines d'églises, alors qu'une seule, dès lors qu'elle est imposante, peut nécessiter bien plus d'argent. M. Nopen est membre du conseil d'administration du CPRQ. On peut offrir 300 000 $ ou des sommes de ce genre à l'une et à l'autre pour restaurer un toit. Mais ça ne permet pas de convertir les églises, des sommes pareilles. Fini le temps des quêtes. L'heure des quêtes et des dons individuels pour venir en aide à ces imposants bâtiments qui marquent le paysage québécois appartient au passé, laissent entendre les signataires de la lettre. Ces bâtiments ne peuvent plus être préservés par des élans de générosité à la pièce. Pour un grand nombre d'églises, la seule voie d'avenir sera la requalification entière ou partielle. Autrement dit, un changement de vocation et d'usage. Les églises qui survivront seront celles dans lesquelles les communautés qui les entourent auront investi ainsi que celles qui auront été protégées par ces communautés, ce qui implique un changement de propriété pour ces bâtiments. Selon le professeur Luc Nopen, il faut même aller plus loin. À l'heure d'une crise du logement, il plaide qu'une partie de la solution se trouve en partie de ce côté. En 2002, nous avions avancé qu'au moins 20 000 logements sociaux pouvaient être construits en récupérant des églises sur l'ensemble des sites potentiels. Le temps pressait déjà, et nous voici au bord du gouffre. Un marché doit être conclu avec les archevêchés, dit-il, afin que certains bâtiments soient soldés et que les plus importants reviennent vite à la société. Problème juridique. Les signataires de cette sortie publique notent que les principales initiatives permettant aujourd'hui la sauvegarde d'églises viennent de citoyens laïcs, de croyances diverses, des gens qui souhaitent défendre le patrimoine historique et social de leur milieu de vie. Cependant, la loi sur les fabriques, laquelle encadre la propriété des églises du Québec, consacre la responsabilité de celles-ci entre les mains des conseils de fabrique confessionnels. De telle sorte que cette disposition interdit à de nombreux citoyens de siéger au conseil d'administration de leur église de quartier, ce qui conduit à priver les églises de soutien structurant nécessaire à leur sauvetage. Autrement dit, le temps presse pour une passation vers la collectivité qui implique un nouveau regard juridique sur ces bâtiments. Il faut donc encourager une forme de passation vers la collectivité qui a financé ces églises et à laquelle elles appartiennent, non légalement, certes, mais légitimement, croyons-nous. Pour cette raison, la propriété de certaines églises du Québec, en région par exemple, a été transférée à la collectivité pour une somme symbolique $1. Ce choix éthique apparaît exemplaire. Les conseils de fabrique et les diocèses doivent résister, plaide le groupe, à la tentation de brader le patrimoine bâti religieux à des intérêts privés. À cet égard, un droit de préemption devrait être au moins accordé aux milieux communautaires et aux initiatives d'économie sociale. Le groupe Porte Ouverte rappelle qu'en France, ces bâtiments religieux appartiennent aux communes depuis 1905. Au Québec, les municipalités pourraient, en concertation avec le milieu, jouer le même rôle de médiation et faciliter les projets de développement communautaire et d'entreprises d'économie sociale gérés par l'intermédiaire d'un OBNL ou d'une fiducie d'utilité sociale, suivant l'excellente suggestion de Luc Nopen, spécialiste des questions de patrimoine urbain. Le groupe voit dans cette prise en main un moyen de voir ces bâtiments à grande valeur collective échapper à la valse de la spéculation immobilière. Les vieilles églises du Québec pourraient ainsi devenir de riches espaces dans lesquels investissent le communautaire et les citoyens, des espaces de médiation et d'innovation sociale et économique, favorisant les échanges entre les générations, les usages, les cultures, oxygénant par le fait même des quartiers entiers qui, dans les grandes villes, s'embourgeoisent et se referment. Ce défi complexe est une occasion à saisir pleinement par une réflexion sur les villes que nous voulons, avec de l'imagination critique et une réelle détermination civile. Devoirs et obligations des municipalités. Les églises se dégradent. La société a-t-elle le loisir de ne rien faire? Non, affirme le groupe Porte Ouverte. Les municipalités ont les moyens et le devoir d'intervenir en vertu de la nouvelle version de la réglementation relative à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Cette nouvelle balise stipule qu'un propriétaire a l'obligation de respecter des exigences strictes en matière d'entretien et de maintien d'un bâtiment. Aux municipalités de faire respecter cette obligation. Mais le groupe pointe aussi du doigt la nécessité pour l'État de soutenir les initiatives citoyennes en faveur de la sauvegarde du patrimoine religieux, ce qui passe notamment par un financement conséquent du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Pour Luc Nopen, il faut développer des solutions pour le monde rural, mais aussi faire preuve d'imagination pour les églises des grandes villes. Certains quartiers comptent plusieurs bâtiments religieux. Il faut mettre des priorités, et vite. Cette lettre, vraiment, n'est pas assez alarmiste. Nous avons beaucoup trop attendu pour agir. C'était « De vieilles églises pour contrer la crise du logement », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 16 janvier 2024 dans Le Devoir.